Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, les Orechem Tovim Vishanim Ne'imim. Nous analysons aujourd'hui Parashat HaChodesh. Donc nous sommes à la veille de Rosh Chodesh Nissan, qui tombe Shabbat, et il est considéré, cette Parashat-là est considérée comme étant la quatrième Parashat qui sont liées au mois de Hadar, qui introduit, le mois d'Adar étant celui qui va introduire le mois de Nissan. Il n'est pas uniquement le 12e mois de l'année. Il est, dans un autre concept, le 5e mois de l'année, le 6e mois de l'année, celui qui va introduire le 7e mois qui est Pessah. Pessah, le mois de Nissan, il est considéré dans la Torah comme étant le premier des mois. Et le mois de Tishré étant le 7e mois. Mais si on compte les années selon le début de l'année, qui est Rosh Hashanah, donc nous avons six mois d'hiver, le dernier mois d'hiver étant Hadar, et dans ce mois de Hadar, qui introduit le mois de Nissan, qui ouvre, qui est le vestibule, l'entrée du mois de Nissan, qui va introduire le mois de Nissan, Chachamim ont institué 4 parashiot qui vont permettre au mois de Nissan de prendre une réalité, de prendre place. Et le mois de Nissan, essentiellement, c'est le jour de Pessah. Le premier jour de Pessah est un jour exceptionnel et qui sort des contextes des fêtes, qui est d'une autre dimension, comme nous allons le voir. Rabbi Yitzhak, dans le Midrash, nous dit que la Torah aurait dû commencer à cette mitzvah-là. La première mitzvah qui a été ordonnée à Israël, qui est la fixation du mois. La fixation du mois ne peut se faire que par le mois lunaire, par la lune. Donc c'est l'apparition de la nouvelle lune. Et fixation du mois, fixation du calendrier. Notre calendrier étant... Les années, les mois étant lunaires, les années étant aussi lunaires, puisqu'il n'y a pas d'année de 365 jours. Mais le compte des années est un compte solaire. C'est-à-dire qu'on va arranger le calendrier de sorte de, en faisant un cycle d'années, 19 ans, ce qu'on appelle Marzor Gadol, on va fixer plusieurs années en bolismique avec un 13e mois, de sorte qu'on rattrape le temps perdu. Et que l'année, au bout de 19 ans, l'année solaire, les années solaires correspondent aux années lunaires. À peu près. Presque. Il y a un petit décalage qui reste, mais il n'est pas important. Donc il s'agit en fait, de verset nous dit, « Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor » Ahodesh azeh lachem rosh chodashim. Ce mois est pour vous. Ahodesh azeh, celui-ci, il est le premier des mois, de tous les mois. Rishon hu lachem le chodshi hashana. Il est le premier des mois de l'année. Donc, a priori, les années sont, comme il est marqué ici, les années sont lunaires. 354 jours. Quand il y a une année embolismique, alors on va ajouter un mois, il va faire 384 jours. Alors le pasuk nous dit, Daberul kol ha'ad ben Israël, les morts, be'asor la chodesh azet, ve'ikru la'em ish se le bet avot et se la bait. En vérité, en ce qui concerne la fixation des mois, il n'y a qu'un verset, le premier verset. Et de suite, la Torah, que je vous ordonne à Moshe, et Aaron de dire au Bnei Israël que le 10 du mois, ils prennent un agneau pour le destiner à Korban Pessah. Le Korban Pessah est sacrifié le 14. Et si il n'y a pas suffisamment de personnes dans la famille pour manger entièrement la chair de cet agneau, alors ils prendront en association avec les voisins. De sorte que la mitzvah est de se dénombrer, l'imanot, c'est-à-dire acheter en association, être compté dans l'agneau qu'on achète, et de faire qu'il y ait suffisamment de personnes qui sont associées, parce que quand on mange l'agneau, il faut essayer, faire tout son possible pour ne rien laisser, que toute la viande soit consommée. Alors la Torah vient d'écrire ici comment les qualités de l'agneau. Alors l'agneau doit être d'un an, il doit être parfait sans défaut, etc. Et vous le garderez, ça c'est la mitzvah d'Égypte, en Égypte, de le garder 4 jours. Donc ils l'ont pris le 10 et ils l'ont sacrifié le 14. Ils mangeront ve'achlo et abassar balayla azetzli esh umatzot al murim yochlu. Donc ils mangeront la mitzvah de manger le korban pessar, l'agneau pascal, et de le manger avec la matzah et avec le maror, les herbes amères. Comment on le mange? On le mange tzli esh, grillé sur le feu, entièrement grillé. On n'a pas le droit de le manger un peu cuit, pas ce qu'on appelle l'autochlum menuna. Non, ça veut dire il n'est pas cuit, il n'est pas entièrement cuit. Il est un peu cuit, mais il n'est pas cuit. Il n'est pas mangeable comme ça. Ou bachel mevushal bamaim, on ne le cuira pas dans une marmite. Uniquement sliesh, seulement sur le feu. Entièrement, rosho alkera velkirbo. Et vous n'en laisserez pas au matin. Et le reste qui en restera au matin, il devrait être brûlé. Alors en Égypte, c'est comme ça qu'ils le mangent. Vous devez le manger en Égypte, habillé, prêt à partir, les ceintures fermées, les chaussures à vos pieds, votre bâton dans la main, Béripason, rapidement, parce que c'est Pessah. Pessah sous-entend ici la rapidité, l'empressement de sortir. Et à ce moment-là, il dit, va avarti Beret Misraim balayla azé, et ici, Kadosh Baruch Hu informe qu'il va frapper l'Égypte de la plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés. Après, il est dit, que ce corban-là, ce sacrifice-là, on n'a pas le droit de casser les os, on n'a pas le droit de sortir du groupe, donc la haboura, si on a acheté le pessar à plusieurs personnes, donc les gens, quand ils le mangent dans la maison, tzli-esh, donc grillé sur le feu, entièrement grillé, et on n'a pas le droit d'en sortir un morceau et d'aller d'un endroit à l'autre ou d'en garder pour le lendemain, donc parce qu'il faut le brûler. Donc toutes sortes de détails qui marquent, ici nous disent les commentateurs, dans le Sefer Achinour, on nous dit que la manière de manger, la manière de le cuire, tout ce qui est, toutes les mitzvot qui concernent la achila, le fait de consommer la chair de ce korban, marque le fait qu'on se comporte comme des rois, comme des gens puissants, riches, qui ne manquent de rien. Donc on ne casse pas les os, par exemple, parce qu'il n'y a que les pauvres qui cassent les os pour manger la moelle qui est à l'intérieur. On ne sort pas d'un endroit à l'autre, parce que quand on mange, on ne donne pas de la viande aux autres. C'est une attitude de garder pour après, c'est de partager avec les autres. Ça signifie qu'il y a des autres ailleurs qui ne sont pas riches, qui n'ont pas de quoi manger, donc on va partager. Non, c'est uniquement les gens qui sont comptés, associés au korban, parce que ce sont les invités du roi. Donc tous les gens, les seigneurs, les gens puissants, se sont rassemblés. C'est le sens de faire un groupe, une haboura. On n'en laisse pas au lendemain parce que on a suffisamment, donc il n'y a que ceux qui ont le souci du lendemain qui vont garder de la viande pour demain, etc. Donc on marque ici le fait que on va se comporter comme étant des gens puissants. Et c'est ça le sens véritable de ce mois. Donc toute la paracha, il est à souligner, à remarquer, qu'en fait toute la paracha de Pessah, qui concerne essentiellement Pessah, au chapitre 12 de Sefer Shemot, Ahodesh Azel Achem, et toute la suite, qui concerne le sacrifice de l'agneau pascal, l'attitude, le chametz, etc., elle est lue le jour de Rosh Chodesh. Elle est lue de Shabbat à Chodesh. Elle ne sera pas lue à Pessah. À Pessah, nous allons lire une autre paracha. Paracha est mort là où on parle de l'ensemble des fêtes. On va commencer par Pessah. Après, on va. Et les Moadim dans la Shirti Kriyotam et Moadim. Voici les fêtes fixées, les rendez-vous qu'on a, que le Am Israël a avec Akadosh Baruch Hu. Alors on commence Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Dans l'ordre, entièrement. Donc et cette paracha là de Parashat Emor, Shor, Ochesev, Oez, qui valait et qui introduit donc là, et les Moadé Hashem, Asher Tikriotam et Moadam, cette paracha là est lue au fait. Donc elle va être lue, elle n'est pas spécifique à Pessah. C'est étonnant. La paracha spécifique à Pessah, qui souligne et qui traduit la spécificité de Pessah, est lue paracha de Chodesh. Et c'est étonnant. Mais en fait, la fixation du mois, comme le dit Rabbi Tzrak, Rashi introduit son commentaire sur la Torah, Bereshit bara Elohim, par cet enseignement de Rabbi Tzrak. Il ne devait pas commencer la Torah par Bereshit, il aurait dû la commencer par Achodesh Azelachem, par la première mitzvah. Qu'est-ce que, comme je l'ai dit précédemment, la fixation du mois, il s'agit d'un verset, un seul verset. Et tout le reste, il s'agit du Korban Pessah. Qu'est-ce que la fixation du mois? Qu'est-ce que la fixation du temps? Donc, le cycle lunaire est de 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Donc, nous devons faire des mois. Comme il dit le verset, il y a un verset qui dit qu'on ne peut faire des mois que deux jours entiers. Donc, le cycle lunaire est de 29 jours, 12 heures. Alors, on peut faire le mois de 29 jours ou un mois de 30 jours. À l'époque où on sanctifiait le mois à la vue de la nouvelle lune, le nouveau croissant de lune. Alors, le jour, le 29, à la nuit tombée, donc on est dans la nuit du 30, les témoins pouvaient apercevoir la lune. Et s'ils avaient aperçu la nouvelle lune pendant la nuit, donc le matin, ils devaient s'empresser à aller au tribunal, au Beit Din, pour dire, nous avons vu la lune. Et alors le Beit Din les interrogeait, et après fixait si leur témoignage est validé. Alors le Beit Din fixait le Rosh Chodesh. Quel était le jour de Rosh Chodesh? Alors il nous dit, dans ce cas-là, le mois précédent a 29 jours, et le 30e jour, c'est le premier du mois, premier Nissan. Si les témoins, pour une raison ou une autre, la lune n'a pas apparu, on n'a pas vu la lune, les témoins ne sont pas venus, alors le mois est automatiquement sanctifié. Quand? Le mois précédent a 30 jours, et le 31e jour sera le nouveau mois, le Rosh Chodesh. Dans ce système-là, le Rosh Chodesh n'a qu'un jour. Il n'y a pas deux jours de Rosh Chodesh. Deux jours de Rosh Chodesh, c'est une apparition, c'est un système dans le calcul. Parce qu'on a un doute, comme on peut l'expliquer à une autre occasion. Mais selon la fixation du mois, dans le concept du témoignage. Alors, il y a 15 jours de Rosh Chodesh. Le mois précédent a 29 jours. Alors, le 30e jour, c'est le premier jour. Les témoins sont venus dans ce cas-là. Les témoins ne sont pas venus. Alors, le mois précédent a 30 jours. Et le nouveau mois commence le 31e jour. Donc, c'est le premier Nissan. Dans tous les cas, nous disent Chachamim, que les témoins peuvent transgresser Shabbat, ça veut dire s'ils sont loin et ils doivent aller de ville en ville, ils ont le droit de le faire. Mais halim Shabbat, les kiddush haHodesh, les témoins ont le droit de plus ou moins transgresser Shabbat pour venir témoigner. Ce qui est étonnant, c'est que pas que la mitzvah de témoignage repousse le Shabbat. La Gemara dit, mishum tikkun haMoadot. Parce qu'il y a une nécessité d'établir de manière parfaite les Moadot. Les Moadot, c'est les rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Quel est le sens de cela? Alors nous devons comprendre, qu'est-ce qu'est la notion du temps? Le zman. Le zman vient du mot azmana, préparation, invitation. Et le mot moed, le mot zman n'apparaît pas dans la Torah. Il apparaît dans les chazal, mais pas dans la Torah. Dans la Torah, on qualifie le temps de moed. Moed, c'est le temps fixé pour quelque chose. Moed, c'est le temps fixé de la célébration. Donc le zman, en fait, c'est la préparation pour arriver à la destination. Il y a un but qui est le moed. Et le zman, c'est la ce qui nous amène à la préparation de ce temps. Le temps de la célébration. Azman mechin la moed. C'est ça ce que nous disent Chazal. Chazal disent mishum tikkun la moedot. C'est-à-dire que nous avons une nécessité de fixer absolument le bon jour, le jour réel, le jour de Rosh Chodesh, de sorte que nous puissions nous préparer, nous projeter dans le jour fatidique, essentiel, espérer la finalité qui est le moed. Alors le mois de Nissan, il est tikkun à moed, de quel moed? De Pessah. Bien qu'il y ait une autre halakha, bien qu'il y ait une autre halakha qui nous dit « Ele moade adonai asher tikreu otam be moadam » Voici les temps de célébration que vous fixerez. « Otam » n'est pas dit avec un vav, il est dit sans vav. Donc on peut le lire « atem ». Et dans la fameuse controverse entre Yehoshua ben Hanania et Rabban Gamliel, où Rabbi Yehoshua ben Hanania a dit que Rabban Gamliel s'est trompé sur la fixation de Rosh Hashanah, donc il a décalé le jour de Kippour. Alors il lui dit, tu viendras le jour de Kippour fixé selon ton système, selon ton avis, chez moi avec ton âne et ton bâton et ton argent, etc. Alors quand Rabbi Yehoshua ben Hanania est parti voir Rabbi Akiva, il lui dit, comment je peux faire ça? Il s'est trompé, c'est lui qui s'est trompé. Alors Rabbi Akiva lui a répondu, à partir du moment où le Beit Din a fixé un temps, c'est le temps fixé. Parce qu'il n'est pas dit que c'est Dieu qui fixe le temps, ces fêtes-là sont fixées par le Sanhedrin. Et c'est ça le sens de la bracha que nous récitons dans la Hamida pendant les fêtes. Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël, Ve'azemanim. Et la Gemara de demander, on ne fait pas une conclusion de bénédiction avec deux choses. Normalement, on aurait dû dire une seule chose, Mekadesh et Azemanim. Alors, pourquoi on dit Mekadesh Israël ve Azemanim? Il y a deux choses, il y a le Vav Ahibour, il y a la coordination. Le sens est, nous répondent les sages, que Akadosh Baruch Hu a sanctifié Israël. Et Israël, c'est lui qui sanctifie le temps. Et là, on ne dit pas Moadot, on dit Zemanim. Encore une fois, la fixation du mois, le bon jour de fixation du mois, c'est le temps établi qui va nous permettre de nous préparer à la fête, de nous projeter, de sorte que la fête se réalise dans toute son ampleur. Donc la fête nécessite une préparation. Et déjà, on nous dit le jour de Rosh Chodesh, donc on va répondre à notre question, Parashat HaChodesh, elle est d'un verset, fixez le mois, et de suite, qu'est-ce qu'on nous dit? Prenez le Korban Pessah. On nous parle du Korban Pessah dans toutes ces règles, dans tous ces détails. On nous dit comment il faut le manger, comment il faut le sacrifier, etc. Et les détails de tout ça. Donc, mais en vérité, c'est la Parasha qui concerne Pessah. Déjà, on est dans le système de Pessah. On est déjà dans Pessah. Un Pessah virtuel de préparation intellectuelle, préparation psychologique, Pessah émotionnelle. On est déjà dans Pessah. Et quel est l'essentiel de Pessah? C'est le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. C'est quelque chose d'essentiel pour comprendre le concept même de Pessah. Qu'est-ce que l'agneau pascal? Qu'est-ce que le Korban Pessah? En Israël n'a pas d'existence en Égypte. Il n'est pas un peuple, il n'est pas une peuplade, il n'est rien.
à tel point que les individus sont désespérés de leur situation. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucune ouverture, aucun horizon. C'est ce que Chachamim nous ont traduit en disant qu'ils ont atteint le 49e degré d'impureté. Donc ils ne sont pas un peuple, ils n'ont pas d'horizon, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont rien. Si on prend quelqu'un, un juif en Égypte, esclave, qui tu es? Je suis esclave. Qui était ton père? Un esclave. Qui seront tes enfants? Des esclaves. C'est notre état, on n'a pas d'existence. Un esclave, il est une caste qui n'a pas d'existence. Il est rien, il est moins que rien. Il est un robot qui travaille. Et à tel point qu'on faisait, parfois quand on travaille, on peut avoir une satisfaction dans ce qu'on fait. On peut trouver quelqu'un qui construit une maison, alors il peut avoir, même si c'est pas la sienne, il va être content de ce qu'il fait. Qu'est-ce que les Égyptiens faisaient des Bnei Israël quand ils les faisaient travailler? Ils faisaient travailler les femmes, les travaux des hommes, les hommes, les travaux des femmes. Et quand ils travaillaient, on leur disait, vous travaillez pour rien, on détruisait ce qu'on, on leur disait de détruire ce qu'ils avaient fait. Pour bien comprendre qu'on les faisait travailler juste pour travailler. Sans aucun intérêt. Afin qu'ils ne trouvent aucune satisfaction dans ce qu'ils ont fait. Donc ils n'ont pas d'existence. La sortie d'Égypte va donner une dimension à Israël. C'est une naissance, nous dit le Harizal. La naissance d'un peuple, la naissance d'une nation, la naissance d'une puissance. Une nation de quoi? Une nation de rois. Une nation, Bene Melachim. Ce n'est pas un peuple ordinaire où il y a un roi, un ministre, des ministres, des gouvernants, etc. Ce n'est pas ça, Am Israël. Am Israël, c'est une nation de rois. Et on va expliquer cela de la manière suivante. Quand on parle d'un peuple, il y a des gens au pouvoir qui dominent, qui dirigent. Il y a les rois, les puissants, et il y a le peuple. Est-ce que le peuple se reconnaît dans son roi? Est-ce que le peuple est content de son sort? Est-ce que on est dans un ensemble? Est-ce que la puissance de l'ensemble, de la nation, se fait au détriment des individus? C'est la relation que nous devons avoir entre la réalisation de l'individu, son épanouissement, et comment il s'intègre et il évolue dans l'ensemble. Il peut pas avoir une évolution ou un intérêt et un épanouissement en dehors de cet ensemble-là, de sa nation. Eh bien, sachez que Am Israël, au moment de la sortie d'Égypte, c'est un peuple de rois. C'est-à-dire que chacun trouve sa place, son épanouissement, trouve son rôle à remplir, comprend le sens de sa personne et de son existence dans l'ensemble de ce harmonieux qui est Am Israël. Les tribus, les chefs, les Kohanim, les Lévi'im, les Moshe Rabbeinu. Chacun est un roi, c'est-à-dire chacun est libre. Il n'y a rien qui est au-dessus, puisque c'est d'un choix. Je suis libre d'agir, et je choisis d'agir de la sorte. C'est un libre choix. Et c'est un épanouissement dans la relation individuelle que chacun a avec l'ensemble du groupe. C'est le sens du Corban de Pessah. C'est pour ça que le Corban de Pessah se mange comme mangent les rois. Ceux qui n'ont aucun pouvoir au-dessus d'eux. Aucun pouvoir. C'est le sens de Ahode Shazel Lachem Rosh Hodashim. C'est le sens de fixer le mois de Nissan comme mois de la délivrance. C'est le sens de la délivrance. Ce n'est pas être un homme libre au sens moderne du terme. Ce n'est pas l'abolition de l'esclavage qui va donner la citoyenneté aux anciens esclaves. Donc, les esclaves, avant d'avoir été esclaves, ils mangeaient par terre. Et maintenant qu'ils sont libres, ils mangent sur une chaise. Mais la Torah ne dit pas ça. La Torah dit, avant cela, vous étiez des esclaves, vous avez mangé par terre. Maintenant, vous mangez sur des divans comme les rois. Vous êtes un peuple de Melachim, des rois. C'est ça le sens de Esseba. On doit s'allonger pour manger le céder de Pessah. On n'est pas libre au sens moderne du terme. On a obtenu la nationalité. Et donc, on a les mêmes droits que les autres. Non, c'est pas du tout ça. La notion de délivrance ici, c'est une notion que on s'est détaché, libéré, et on est maître de notre destin. Chacun est maître de son destin. Chacun est maître, la nation est libre, et chacun est maître de son destin. C'est-à-dire qu'il va trouver son épanouissement dans cette nation. C'est le sens que vous êtes à présent, vous êtes tous des rois. La seule loi que vous avez vous-même choisie, c'est la loi d'Akadosh Baruch Hu. Appliquez la Torah. Donc, appliquez la Torah, c'est donner le pouvoir à chacun d'être un roi sur sa destinée. Pourquoi ? Parce que à partir de là va se dévoiler une conduite spécifique, miraculeuse, que chacun, que Hachem va octroyer à chacun tous ses besoins. Donc c'est ce qu'on va voir dans le désert. Ils vont avoir l'eau, le pain, la manne, les vêtements. Ils n'ont aucun besoin. Le seul besoin qu'ils ont, c'est d'étudier la Torah, de vivre, de s'épanouir. C'est le sens du Korban Pessah. C'est le sens de Parashat HaChodesh. C'est la préparation à cette délivrance-là. C'est ça la délivrance. La Torah n'est pas une contrainte. La Torah est une libération. Comme dit le Passouk, ne dis pas que les lettres étaient gravées sur les tables. Dis que les lettres libèrent les tables. Il n'y a aucune... La Torah n'est pas une contrainte, c'est une délivrance. Les choses ne sont une contrainte que si on les vit mal. Mais si on applique et on voit la réalité du bénéfice qu'il y a à tirer de cela, alors c'est une délivrance. Et à partir de là, on va manger le Korban Pessah comme les seigneurs les plus puissants mangent à la table des seigneurs les plus puissants. On est allongé. On mange peu. Pessah nechala sova. On est déjà rassasié, on mange un peu. On n'a pas faim. On mange pour l'appartenance à cette délivrance. C'est ça le Korban Pessah. C'est appartenir, ingérer le concept même de cette délivrance. Ingérer, digérer le concept même de la délivrance totale, d'être maître de soi. C'est appartenir à la Torah, appartenir aux serviteurs d'Hachem. C'est le sens de la Esseba, c'est le sens du Hallel. Les corbanotes publics, quand ils étaient offerts, les Lévites faisaient le chant pour accompagner les corbanotes, au moment des libations. Parce que quand on verse le vin réjouit. Donc le chant, c'est la réjouissance. Korban Pessah, on chantait deux fois. Les Lévites chantaient au moment du sacrifice, parce qu'il n'y a pas de libation dans le Korban Pessah. Ça veut dire que, en général, pour qu'il y ait la joie, il faut verser du vin. Alors ici, la joie est intégrée, elle est inhérente au Korban Pessah. On n'a pas besoin de vin pour être heureux. Heureux de quoi ? De son épanouissement, du fait d'exister, de vivre, d'appartenir aux serviteurs d'Hachem. Donc le Korban lui-même, il est la délivrance. Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire le Hallel. Le Hallel sera récité pendant le sacrifice par les Lévites. Rashi ajoute qu'il est aussi récité par les propriétaires, par ceux qui l'amènent. Eux aussi chantent. Et non seulement au moment du sacrifice, mais aussi au moment où on mange, on doit chanter. Parce qu'il y a deux choses, deux mitzvot dans ce korban. La mitzvah de le sacrifier, c'est la shrita, et la mitzvah de le manger. Il y a une mitzvah sur chacun de manger, d'appartenir, d'ingérer, de digérer la notion de délivrance. Et au moment où on mange, on chante. On le chante comment ? Alors on le chantait en deux temps. C'est pour cela que dans le Seder de Pessah, on va chanter le Hallel en deux temps. Une partie avant le repas et une partie après le repas. Et pour ça, d'ailleurs, c'est pour cela que nous disons « Ligmor et ta Hallel ». Tu dois terminer ce que tu as déjà commencé. puisqu'il est fait en deux temps. Donc le Hallel, il est la joie d'être libre, la joie d'appartenir à Kadosh Baruch Hu. C'est la joie de la mitzvah. C'est la louange exceptionnelle d'être passé d'un statut inexistant à un statut de roi. Et c'est ça Parashat HaChodesh. C'est pour ça que Rabbi Yitzhak dit que la Torah aurait dû commencer par cette parasha. Et là, nous aurons l'occasion de développer cela à travers les halakhot du Seder et du Korban Pessah. Mais nous avons ici le principe fondamental qui est établi. Vous êtes un peuple singulier, un peuple de rois, un peuple de Kohanim. Kohanim ici, c'est dans le sens des gens qui sont des seigneurs. Vous avez adopté, quand je vous retrouve, vous avez adopté, adhéré à la volonté de Dieu, vous êtes libre. Et à partir de là, quand je vous retrouve, va vous diriger, vous conduire de manière miraculeuse. Aucun souci ne sera pour vous. Vous n'aurez aucun souci de la réalité du quotidien. Vous vivez dans une autre dimension. Ceux qui n'ont aucun souci, qui n'ont aucune loi au-dessus, ils ne font que leur volonté. Et quelle est notre volonté? Notre volonté, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est notre choix. C'est notre vie. Qui aime hayenu ve'orechyamenu. C'est ça la délivrance. Avec cette leçon, nous voyons les choses de manière différente. Nous voyons les choses, le hametz, tout ce qui est interdit de consommer, ce sont justement le hametz. Justement, pourquoi il est interdit de manger le hametz? Il y a une question fondamentale a priori. Voilà que nous disons dans la Haggadah que le hametz, les juifs mangeaient le hametz pendant qu'ils étaient esclaves. Ils mangeaient la matzah pendant qu'ils étaient esclaves. Les Égyptiens leur donnaient matzah zushanu ochli. Alors alhamania de chalou avatana barad misraim. Voici la matzah que nos ancêtres ont mangé quand ils étaient esclaves. Mais ils l'ont mangé aussi quand ils sont sortis. Mais si les esclaves mangeaient de la matzah, ils mangeaient pas du pain. Le pain, d'ailleurs, qu'est-ce qui est meilleur, le matzah ou le pain? Le pain, c'est quelque chose de normal de manger. Donc ça c'est réservé aux seigneurs, aux gens puissants, aux Égyptiens, aux hommes libres. Les hommes libres mangeaient du pain. Les esclaves mangeaient de la galette, qui est pas bonne à digérer, etc. Donc l'aspiration de celui qui va être libéré, quand il est libre, qu'est-ce qu'il veut manger? Tout de suite, ce qu'il n'a pas eu l'occasion de goûter, de manger pendant des années d'esclavage, il va aspirer à le manger, à en consommer, en profiter, en jouir. Et là, la Torah nous dit, ça, si vous avez l'aspiration de manger du pain, c'est un semblant, c'est une illusion de délivrance. Le pain, il va vous donner l'illusion d'être libre. Parce que vous allez faire ce que vous voulez. Mais c'est pas ce que vous voulez qui est, ce que vous désirez vous qui est la vraie définition de la délivrance. Ça, vous risquez de déraper. Alors mangez encore de la matzah. Parce que cette matzah-là, c'est parce que vous l'avez mangée en Égypte que vous avez réussi à vous libérer. Parce qu'elle traduit. Donc il y a deux matzot. Il y a la matzah qu'on mange en Égypte et la matzah qu'on mange à la sortie. Elle aussi, elle traduit un autre système. Elle n'est pas de la même dimension que la matzah d'Égypte. La matzah que l'on mange à la sortie d'Égypte, celle du Seder de Pessah, c'est celle de l'empressement. C'est-à-dire que dans un système naturel, le pain fermente, le pain va gonfler. Dans la conduite, donc il va devenir du pain, du hametz. Dans la conduite qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous de ce monde, comment il nous conduit, le temps n'a pas de prise. On réduit le temps. Donc on dépasse, on saute les étapes. Et on va manger quelque chose auquel on n'a pas laissé le temps normal de la chose de se faire de manière normale. C'est l'agissement, ça traduit l'action miraculeuse au dehors du temps que l'on appelle la conduite spécifique du nom de Dieu Yotke Vavke pour Israël. Et c'est ça, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais c'est ça le sens même de la matzah que l'on mange, la matzah shmura qui a besoin d'être surveillée, qui a besoin d'être observée, d'être préparée avec conscience et attention. Cette matzala traduit le détachement de Ham Israël de la matérialité, que Dieu se comporte avec eux de manière surnaturelle. Et c'est ça, la parashat HaChodesh qui déjà installe au premier jour du mois, déjà Pessah est installé. Et c'est ça ce que nous appelons Tikkun HaMoadot. De sorte que le but à atteindre qui est Pessah soit réalisé de manière parfaite. Il ne s'agit pour nous que de nous y préparer et de nous investir, de méditer, de réfléchir, d'apprendre de manière à faire la mitzvah de manière parfaite et en fin de compte de nous libérer Be'ezrat Hashem, Bimera, Be'amenu. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen.